est blanche. On entend la fourmilière de Vivatech autour de nous. Mon invité a été le coup de cœur carte blanche de Dorothée Pinault-Valenciennes, la Chief Content Officer de Vivatech, celle qui pense toutes les confs et qui trouve tous ses speakers inspirants dans son dernier 40 nuances de Sista. Et donc mon invité pour cette émission spéciale est la cofondatrice de My S-Life et cofondatrice et présidente de Femtech France, c'est Juliette Moreau. Bonjour Juliette.
Bonjour, bonjour Solène.
Ravie que tu sois avec nous aujourd'hui.
Également.
Et on a hâte de découvrir ton 40 nuances de Sista.
40 nuances de Sista. Les Sista du Next 40, comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Solène Etienne, cofondatrice du Brain Studio Feuille Blanche.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les Sista du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Une émission 40 nuances de Sista, spéciale Avivatech, spéciale Femtech, avec toi Juliette. L'association Femtech France, c'est tout neuf.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la Femtech ?
Oui, alors la Femtech, c'est un terme qui a été inventé, proposé par Ida Tin, qui est une grande créatrice de la Femtech, puisque c'est une des fondatrices de Clou, l'application de suivi des règles qui est une des plus utilisées dans le monde. Et la Femtech, c'est la réunion de deux termes, hein, technology and female, et ça concerne uniquement tout ce qui est innovation en santé des femmes. Alors pourquoi je dis uniquement, c'est parce que souvent on nous confond par Femtech, c'est les femmes dans la tech. Non, Femtech, c'est vraiment l'innovation en santé des femmes et tout ce qui tourne autour de la santé des femmes plus spécifiquement.
Et donc septembre 2022, mais toi tu es cofondatrice d'une start-up qui est My S-Life.
Tout à fait.
Alors, on va parler et de Femtech et Femtech France, l'association, et de My S-Life, parce que les deux, finalement, sont imbriqués et les deux histoires se suivent.
Oui, complètement.
Est-ce que tu peux nous pitcher My S-Life ?
Alors, My S-Life, c'est parti d'un constat qui était qu'on n'avait pas obligatoirement un espace pour répondre à toutes les questions que les femmes pouvaient se poser sur leur santé intime et sexuelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais quand j'ai cette question, que mon rendez-vous il est prévu dans X temps avec mon gynécologue ou que même j'hésite même à y aller. Et pourtant, il faut que je l'ai cette réponse là, maintenant, qu'elle soit fiable, voire éventuellement que je puisse en parler avec d'autres. Donc, l'idée, c'était de proposer un espace où on puisse aborder ça. Et puis, par extension, on s'est rendu compte que finalement, la thématique de la santé des femmes, elle touchait les femmes dans leur ensemble, y compris dans leur vie professionnelle. Et peu à peu, on en est venu à développer une offre qui vienne aider les salariés et plus globalement l'entreprise à utiliser les questions de santé intime des femmes au quotidien comme levier d'égalité professionnelle. Donc concrètement, ça se traduit par une appli qui propose du chat avec des soignants, des groupes de parole, du contenu qu'on met à disposition des salariés. Et aussi des conférences, des formations pour faire de la question de la santé intime des femmes un vrai sujet en entreprise.
Alors justement, on peut se dire que c'est un sujet qui peut rester encore relativement tabou. Et alors quand tu vas en entreprise pour parler de ça, comment ça se passe ?
Bah déjà, je commence par en parler d'un point de vue d'employeur.
Oui.
Aujourd'hui, on sait qu'il y a une femme sur trois qui va démissionner quand elle rentre en parcours PMA. Qu'aujourd'hui, quand une femme souffre d'une maladie chronique gynéco, et ça concerne une femme sur trois aussi d'ailleurs, comme l'endométriose ou le fibrome utérin, c'est des femmes qui déclarent soit de l'absentéisme, soit du présentéisme, parfois à hauteur de 80%, c'est énorme. Mm-hmm. Et puis aujourd'hui, concrètement, quand on veut pouvoir parler à des femmes, les retenir au travail, il faut aussi leur parler de leurs problématiques au quotidien, comme par exemple la ménopause. Et ça, c'est 40% des femmes actives. Donc du coup, au final, quand tu commences déjà par aborder les sujets par le prisme de
chiffres.
C'est chiffres, c'est vos salariés, ça concerne leur présence, votre capacité à les retenir, l'attractivité et aussi la manière desquelles elles travaillent. Hein, du coup, naturellement, tu en arrives à poser ces questions-là. Et après, tu peux aller plus loin. À date, les règles ne s'arrêtent pas à la porte de l'entreprise. Les maladies, quelles qu'elles soient, elles viennent aussi avec toi au boulot. Donc après, la manière à laquelle tu en parles et la manière à laquelle tu l'impliques, bah, c'est aussi à nuancer, on est dans un endroit, en fonction de comment l'entreprise, justement, veut se l'approprier, et puis aussi en fonction du poste et de la manière à laquelle on peut en parler.
Tes contacts en entreprise, c'est principalement des DRH ?
DRH, directrice, directeur RSE.
Oui.
Mais ça peut aussi être via la médecine du travail.
D'accord.
En fait, c'est trois acteurs qui vont s'occuper de la santé des salariés et ou de leur qualité de vie au travail et ou de l'impact et de la marque employeur. Donc, dans tous les cas, on peut aborder la question par ce prisme-là.
Qu'est-ce qui les retient d'aller sur ces sujets et de prendre ces sujets à bras le corps ?
C'est amusant que tu poses cette question-là. En général, alors je vais peut-être répondre un tout petit peu à l'envers. En général, il y a toujours une ou deux personnes, femmes souvent, mais des fois c'est des hommes, qui vont être hyper moteurs sur le sujet et qui ont envie d'aller tout de suite vers tout, en fait, vers notre offre, vers l'appli, les conférences, voilà.
Et ça correspond à une typologie de classe d'âge.
Pas tort, c'est souvent une classe d'âge un petit peu plus. On tourne autour des 30-35 ans, ouais. Mm-hmm. Quand on commence à avoir un petit peu de pouvoir managérial, on va dire, en entreprise et un peu de bouteille aussi. Donc oui, ça souvent c'est des forts drivers. Après, il faut pouvoir convaincre et souvent convaincre un COMEX qui, lui, pour le coup, est peut-être moins allant sur ce type de thématique-là. J'ai envie de dire, je pense que la France, il y a énormément de choses qui bougent en France actuellement sur le sujet de la santé des femmes, d'un point de vue législatif, comme d'un point de vue même de proposition d'entreprise. Il faut peut-être qu'on aille jusqu'au bout, puis qu'on regarde aussi ce qui se passe chez nos voisins. Au UK, par exemple, il y a plus de 20% des entreprises qui ont mis en place un programme dédié à la santé des femmes en entreprise, avec ses volontés d'attractivité, de marque employeur et de prise en charge de la santé de leurs collaborateurs. Donc quand on voit que ces choses-là commencent à se déployer chez des voisins qui sont un peu proches de nous quand même, malgré tout, je pense que les sujets vont commencer à évoluer.
Et c'est aussi dans cette optique que vous avez fondé Femtech France ?
Femtech France, c'était encore plus large. C'était l'idée de dire, alors c'était encore plus large que la santé au travail. Femtech France, c'était l'idée de... Moi, quand j'ai créé My Yes Life, pour le coup, j'étais vraiment... J'ai pas rencontré beaucoup de collègues dès le départ, en tout cas. J'ai créé My Yes Life en 2020. Et de cofondatrices ou cofondateurs qui étaient sur les thématiques de santé des femmes, j'en trouvais pas tant que ça. Puis après, il y a eu les programmes Femtech de Station F. Pour moi, c'était une révélation. Déjà, je pouvais mettre un nom sur ce que je faisais. Donc, je rentrais dans une industrie.
C'est à ce moment-là que tu as identifié le terme Femtech ?
Exactement. Exactement. Et pour être honnête, c'est très rassurant parce que, y compris pour la planète investisseur, je comprends. On a besoin d'être dans des cases. Dans des cases, oui, ou en tout cas dans rangées, pour pouvoir se comparer, pouvoir regarder. Donc déjà, c'était assez révélateur par rapport à ça. C'était révélateur de voir qu'il y avait des grosses boîtes US qui existaient. Et puis, en fait, derrière, Station F m'a permis vraiment de dérouler tout un marché qui est ultra riche, qui est dans une croissance, puisqu'on parle de 100 milliards de dollars pour 2030. C'est un marché qui a déjà atteint 53 milliards de chiffre d'affaires en 2021. Donc voilà, on est sur des gros marchés. Et donc, d'un coup, mon histoire, My Yes Life, faisait plus de sens. Donc ça a été le début. Après, il se trouve que moi, je viens vraiment du monde de la santé et que vis-à-vis d'autres fondatrices ou fondateurs que je pouvais rencontrer sur la Femtech, qui eux venaient plus avec une histoire personnelle et qui avaient du mal à peut-être, enfin qui avaient en tout cas beaucoup de questions sur la santé, le système de santé en France. Du coup, j'étais souvent sollicitée sur ces thématiques-là et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est quand même étrange, on est pas mal, on commence à représenter quelque chose, vraisemblablement il y a un vrai potentiel, enfin, c'est pas que moi qui le dis, et pourtant on a le monde de la FTech, le monde de la santé ou tout simplement le monde des investisseurs qui nous regardent pas. Donc qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut justement donner à voir, et de là est née l'idée de se fédérer, de créer ce collectif et de créer Femtech France.
C'est combien de startups aujourd'hui, Femtech France ?
On est épatés nous-mêmes, pour être honnête, parce qu'on a ouvert les adhésions en janvier et c'est déjà 50 startups qui nous ont rejoints. Et là, on vient d'annoncer, on avait fait une première cartographie des startups Femtech en France en novembre, on en avait 82. Là, on vient d'annoncer le nouveau chiffre, on est à 115. Donc elles ne sont pas toutes créées entre-temps, hein,
non,
mais ça veut
sûr.
Dire que l'écosystème est riche, que
il commence à se fédérer.
Se fédère, voilà, que les gens en nous voyant, bah, du coup, viennent à nous, nous expliquent. Donc certains choisissent d'adhérer, certains choisissent juste de se manifester, ce qui est déjà énorme. Et collectivement, on commence à représenter vraiment un vrai poids.
Alors hier, sur le stand, donc en fait sur le village Femtech, parce que cette année, Vivatech a choisi de faire ce focus sur cette activité de la Femtech. Et donc, il y a le village Femtech où il y a à peu près combien de startups représentées sur les 4 jours ?
En tout, sur les 4 jours, on va avoir 24 startups qui vont défiler.
Donc
c'est top.
C'est top.
Tous les jours, il y a 6 startups qui viennent et qui présentent ce qu'elles font et comment elles se... Voilà.
Et vous avez rencontré quelques ministres, je crois.
Ah oui. En fait, c'est top parce que on a eu le... Enfin, ce qui est top, c'est toujours chouette hein, d'avoir des ministres qui vous soutiennent et qui viennent inaugurer le centre. Mais en plus de ça, ça faisait vraiment sens. On a eu hier, donc, pour l'inauguration, Madame Isabelle Rome, donc ministre égalité femmes-hommes, et Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre du numérique, qui sont tous les deux ensemble venus inaugurer le village. Et on aura vendredi, et c'est vraiment bien parce que c'est la boucle est bouclée, le docteur François Beaune, donc le ministre de la Santé, ce qui sera vraiment bien parce que c'est vraiment l'intérêt de la Femtech. La Femtech, c'est vraiment à l'entrée de trois sujets, la santé des femmes, l'innovation, le numérique entre autres, et puis quand même l'impact social. Et donc cet impact social en termes d'égalité femmes-hommes. Et donc voilà, c'était vraiment bien.
Quels sont les messages que vous leur avez fait passer ?
Pour être honnête, c'est eux qui nous en ont fait passer beaucoup.
Ah.
Et j'ai trouvé ça chouette, hein, qui étaient des messages de continuer, on va vous soutenir. Et ça, on l'a entendu plusieurs fois, à plusieurs reprises, dans les discours en individuel. On veut vraiment continuer à vous aider, à vous faire progresser. Et on veut que la France... se positionne comme un pays leader et qui progresse sur ces thématiques-là, ce qui, pour nous, est top.
Vous êtes inspirée ou vous travaillez peut-être avec eux aussi, avec le Femtech UK ou US ?
Oui, bien sûr. Oui. En plus, on est très active à Femtech France à créer justement des partenariats. On a eu l'occasion, ces derniers mois, de pas mal se rencontrer dans le cadre de congrès internationaux en France et ailleurs. Donc oui, évidemment, on a rencontré il n'y a pas très longtemps d'ailleurs Brittany Barreto qui est la référence en termes de Femtech et de représentation du monde de la Femtech US et UK. Pardon. Et donc du coup, oui, l'idée c'est en effet de continuer et on travaille à plusieurs. On a, donc tu les as cités UK et USA, mais il y a aussi des Femtech Canada, Femtech Japon avec lesquels on crée des partenariats.
Si on revient sur Maya's Life, aujourd'hui, le business model, il s'articule comment ?
Alors, le business model, il a pivoté.
Ça arrive très souvent. C'est plutôt sain.
Pivoté, et on a toujours... et on n'a pas le vertige, donc c'est ça qui est bien. On avait commencé en B2C.
Ouais.
Et la santé en France, c'est compliqué, surtout sur ce type d'offre qui est vraiment de la prévention, de l'accompagnement. Donc, on est en B2B. Alors B2B2C, puisque
oui.
C'est ce que j'expliquais, l'offre in fine, elle s'adresse aux entreprises, mais aussi en partie pour leurs salariés.
Et puis en B2C, pardon, tu devais avoir quelques problèmes sur les réseaux, etc., non ? C'est par rapport au sujet que tu abordais ?
On en a toujours eu, on en a encore, hein, de toute manière. Après, je souris parce que au bout de 3 ans, tu deviens tellement forte, en fait, pour identifier ce qui va passer, pas passer.
Que, d'où le S, peut-être.
Alors le S, en fait, au début, alors moi, ça me plaisait parce que je trouvais qu'il y avait... Enfin, déjà, ça fait beaucoup réfléchir. C'est rigolo ce que les gens mettent derrière. Il y en a certains qui vont mettre de la sexo, il y en a certains qui vont dire santé tout de suite. Il y en a qui m'ont parlé de secret, il y en a qui m'ont parlé de stratégie. Donc moi, j'aime bien ce côté comme
d'entretenir
ça.
D'entretenir
le Maya's Life, il tourne autour de ça. Mais non, sur les réseaux, Non, ça peut... Je me rappelle d'une pub qu'on avait essayé de faire passer. On a essayé au moins 5 visuels pour Facebook, hein. Et on s'est rendu compte au bout d'un moment que c'était parce qu'au sein du visuel, on parlait de santé sexuelle, sans avoir mis le 3 là. Mais c'était super caché, donc on s'est dit « Ah ok, d'accord, donc on va recorriger ça ». Toutes mes collègues l'auront dit, hein, mais tu mets pas de seins, tu mets pas de forme, il n'y a rien d'allusif, voilà.
Et donc du coup, modèle plutôt B2B maintenant ?
Tout à fait.
Vers les entreprises.
Nous, on aime beaucoup accompagner des entreprises qui vont avoir des problèmes. Alors, évidemment qui ont majoritairement des femmes, parce que c'est intéressant aussi justement d'aborder cette question-là quand tu as beaucoup de femmes au travail. Et la possibilité aussi de faire réfléchir les managers aussi à comment tu les accompagnes et comment tu leur comment tu parles de l'intime en entreprise sans pour autant rentrer dans l'intimité ni devenir le gynéco du coin.
Oui.
Et l'intérêt pour les entreprises aujourd'hui, c'est que elles le voient vite en fait quand tu abordes ces thématiques-là, quel que soit l'âge et la démographie de ta boîte, il y a un effet. Il y a un effet également en termes de c'est un terme un peu fort, mais un peu de modernisation de l'état d'esprit, en fait, et de la manière qu'elle t'aborde des sujets de société, tout en restant, en fait, en respect de l'intime.
Ben, un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tous ces sujets-là ne restent pas à la porte de l'entreprise.
Exactement.
Quand les femmes arrivent au travail.
Et le deuxième point, c'est nous, évidemment, donc on est sur ce qu'on appelle les employee benefits, hein, tout ce qui est avantages sociaux. On a vu une grande évolution des employee benefits ces dernières années, en particulier avec le Covid, avec un vrai intérêt en fait des employés pour toutes les formes d'avantages sociaux qui peuvent tourner autour de la santé, donc service en plus de ce que peut offrir la mutuelle. Et donc ce business model là il répond aussi à cette évolution là de marché et d'un vrai besoin marché en fait autour de ce type d'avantages sociaux.
Il y a beaucoup d'hommes dans la femtech?
Non,
c'est plutôt un marché de femmes pour des femmes.
J'ai l'habitude de dire je rencontre beaucoup de femmes dans mes journées. Donc, quand il y a des gens qui se plaignent d'être dans un environnement très masculin, c'est vraiment pas le cas pour moi. Non, il y a quand même majoritairement des femmes. Après, il y a aussi beaucoup d'équipes mixtes.
Hein. Oui.
Moi-même, mon cofondateur est CTO et c'est un homme très engagé sur ces questions-là et qui intervient avec sa compétence côté IT. On a 96%, j'hésite entre 86 et 96, mais enfin on est en tout cas pas très loin de pratiquement les 100, qui sont de Femtech qui aujourd'hui sont créés soit par uniquement des femmes, soit par des femmes, enfin des équipes mixtes où il y a au moins une des cofondatrices qui est une femme.
Voilà. Et donc ça laisse peu de pourcents pour que des hommes.
Ça laisse peu de pourcents pour que des hommes, exactement. Alors après, c'est... Après, c'est un peu un effet boule de neige. Hein,
bien
parce
sûr.
Que tu as les mêmes désavantages d'avoir des équipes mixtes ou non mixtes. Hein, ça, c'est, voilà. Mais bon, ça se gère très bien. Hein, il y a tellement de boîtes que des hommes, donc j'imagine que ça devrait gérer. En revanche, non. Ce qui est plus complexe, c'est les levées.
Oui, on y revient voilà. Toujours. Parce que beaucoup de femmes, un sujet qui n'est pas forcément... compris par les investisseurs en face qui sont majoritairement des hommes.
Voilà, bon, vraiment j'enfonce une porte ouverte, hein, mais oui, ouais. Oui, évidemment, et des thématiques qui sont pas obligatoirement des thématiques sur lesquelles tout le monde va se retrouver tout de suite. Si on est voilà, donc pour une femme, c'est plus simple, elle peut s'identifier elle ou un proche. Pour un homme, ça va être plus complexe, auquel s'ajoutent pour beaucoup des femtech des difficultés qu'on a aussi en healthtech, qui sont en santé plus générale, qui sont que la santé, c'est des business models qui peuvent ou pas marcher, et en tout cas qui se cherchent, sur lesquels on pivote souvent, et vers lesquels, du coup, on peut avoir plus de frilosité pour certains investisseurs.
Et donc ça, c'est un sujet, le sujet des levées dans la femtech?
Je pense qu'il y a plusieurs sujets sur la femtech. Il y a le sujet de levée. Il y a le sujet de l'accompagnement, c'est un marché naissant. Je t'ai donné des chiffres au niveau international, mais en France, le chiffre d'affaires, il est encore faible. Hein. L'écosystème, il est neuf. Aujourd'hui, il y a besoin d'accompagner cet écosystème-là si on ne veut pas justement que d'autres prennent le marché, parce qu'on est quand même un des plus gros marchés européens en fait, en France. Donc il y a cet enjeu-là quand même aujourd'hui de pouvoir l'aider à travers les levées. Après... Il y a aussi des moyens de les aider à travers peut-être des subventions, tout ce qui est accompagnement plus spécifique du secteur entrepreneurial. Je sens que la BPI est porteuse sur ces thématiques-là. Ce serait vraiment chouette qu'il y ait un bel accompagnement.
Qu'il y ait un nouveau petit coq.
Exactement. Un nouveau petit coq ou un nouveau furty, quelque chose. Voilà.
Bon, on va passer le message. Je te propose, Juliette, de jouer au petit jeu des premières fois. Ton premier renoncement avec My Yes Life?
Le premier?
T'as pensé au dernier, là, quand...
Ouais, c'est clair.
Je l'ai vu dans tes yeux.
Je pense que le premier, c'était de ne pas tout faire d'un seul coup. Ça m'a pris 3 ans avant d'aboutir à la forme de l'application telle que je la voulais, telle ouais. que je l'ai pensée. Et ça m'a... Oui, je pense que ça me mangeait un petit peu tous les jours. C'est pas comme ça que je voulais que ça le soit. Donc, c'est ça le premier renoncement, je pense. Ouais.
Oui, parce que quand on développe une app, il faut accepter qu'il y ait une V0, une V1, une V2.
V3, il faut accepter qu'au début, t'as pas les sous pour faire tout ce que tu veux faire. Faut trouver le financement, faut tester, faut voir aussi ce que veulent...
Et toi, comment finalement t'as choisi ?
J'ai choisi en fait, pour être honnête, c'est plus la communauté à qui j'ai demandé de choisir.
Ouais.
C'est-à-dire au fur et à mesure où les demandes émergeaient, ce que je pouvais faire facilement, je l'ai mis. Et puis ce que les femmes commençaient à réclamer. Un des premiers points qui a commencé à émerger, c'était vraiment un besoin de pouvoir échanger avec d'autres femmes. Et ce n'était pas obligatoirement la fonctionnalité que j'avais pensé le plus. Pour moi, c'était vraiment... c'est un côté très... Genre, il faut leur donner l'info, il faut qu'elles sachent, etc. Et le premier besoin, c'était plus de pouvoir parler aux femmes. Entre elles, donc du coup c'est comme ça que j'ai choisi cette fonctionnalité là. Ouais.
Ta première big mistake?
Toujours sur My Yes Life. Hein.
Ouais.
Oula, ça c'est. J'en ai fait quelques-unes. Oui, non, je pense que oui. La plus grosse, hein, je pense, c'est de pas. Je pense qu'on est plusieurs comme ça, surtout les femmes. J'ai essayé un tout petit peu de lever au début.
Ouais.
Sur un deck. Personne ne comprenait ce que je disais. J'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Je pense, le courage, peut-être pas le terme. En tout cas,
ça t'a découragé d'aller.
Ça m'a découragé d'aller jusqu'au bout. Et je me suis dit, ok, fine. J'avais les moyens de le faire plus petit, plus lentement. Et donc j'ai voulu le faire sans lever. Je pense que je serais allée 100 fois plus vite, en fait. Et aujourd'hui, c'est ce que je répète en boucle, en fait, à toutes les entrepreneuses femtech. Vous êtes en train de faire un projet dans la santé. La santé, ça coûte cher parce qu'il y a des contraintes réglementaires, médicales, scientifiques. Levez avant d'y aller. Ce sera 100 fois plus simple, plutôt. Et ne faites pas un POC sur un petit outil, parce que de toute manière... Un POC sur un tout petit outil, j'en sais rien, n'importe quel outil low code, ce sera pas idéal par rapport à des critères de sécurité, de rigueur scientifique qui font que ce qu'on fait, ça a de la valeur pour les gens, en fait. Mm-hmm. Donc oui, je pense que le big mistake, c'est celui-là.
Et ton premier coup de culot?
Moi, je suis quelqu'un d'assez culotté quand même, donc, du coup.
Il y en a beaucoup trop.
En vrai, je pense que c'est un coup de culot qui m'a épaté moi-même. C'est quand on a commencé My Yes Life, comme on était plutôt sur... Pour le coup, on n'avait pas encore pivoté, donc on était plutôt sur une communauté B2C. En faisant un peu le tri, je m'étais rendu compte que finalement, quand je parlais de mon projet aux femmes, souvent ce qui revenait, c'était toutes les problématiques autour de la sexualité. C'est pas besoin des questions que de plaisir, hein,
ouais.
Mais c'était justement comment est-ce que j'ai une sexualité... quand tu peux avoir des grandes souffrances par rapport à une maladie, par exemple, comme l'endométriose. Et du coup, je me suis dit, puisque c'est le sujet que les femmes veulent entendre, allons-y, allons voir les gynécos, allons voir les sexos, etc. C'était pas obligatoirement le sujet que j'aurais pensé aborder le premier et communiquer sur LinkedIn sur ça, encore moins, pour être honnête. Mais finalement, c'est le sujet qui nous a permis à nous de créer, pour le coup, un vrai lien avec la communauté. Parce que d'un coup, on parlait aux femmes qui souffraient d'endométriose, de leur sexualité, de comment comment aborder certaines thématiques. Et par ricochet, on l'a abordé aussi sur le cancer. Voilà, c'était des thématiques que j'aurais pas pensé au départ démarrer sur ces sujets-là. Finalement, c'était un coup de culot d'y aller. Et je regrette pas du tout parce que ça a créé une super belle... une super belle relation avec une communauté, avec aussi des associations de patientes. Voilà.
Oui, et puis des femmes qui se sentaient moins seules vis-à-vis de leur
problème. Exactement.
Et ton premier client?
Mon premier client, c'est Hopscotch. Une agence de com qui nous a... Alors, le premier client B2B,
bien sûr.
Qui nous a fait confiance et merci à eux.
Allez,
Relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
Alors, tu nous l'as teasé un petit peu au début de cet épisode. Tu as dit que tu venais du monde de la santé. Qu'est-ce que tu as fait avant Maya's Life ?
Alors, moi, je suis diplômée d'une école de commerce. En sortie d'école de commerce, j'ai monté ma boîte très vite, en fait, dans le conseil en IT, en système d'info. Après, j'ai eu ma boîte pendant un petit temps. Et puis
déjà entrepreneur.
Ah ouais, très vite. Mais en fait, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc, du coup,
c'était dans les veines.
Dans mon ADN. j'ai essayé le salariat 2 ans.
Tu dis non.
Non, en fait, j'étais très malheureuse. Donc, du coup, en tout cas, à l'époque. Voilà. En fait, pour être honnête, la boîte allait super bien, mais je m'ennuyais, ça arrive à tout le monde. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire ? Et donc, en plus, j'ai un morceau de la famille qui est entrepreneur et l'autre morceau qui est dans la santé. Donc là, on m'a fait un peu de forcing. On dit, vas-y, mais va faire un truc en santé publique. Donc, j'ai fait un master en santé publique. Et avec mon master, je suis partie travailler pour l'Agence régionale de santé d'Île-de-France quand elle s'est créée. Après, la DGS. Alors maintenant, tout le monde connaît la DGS.
Oui, de fait.
De fait. Donc, je suis partie travailler pour eux. Après, j'ai bouclé la boucle. Je suis partie travailler pour Médecins sans frontières. Et puis, quand j'ai eu terminé toutes ces expériences, j'avais envie de revenir à l'entrepreneuriat parce que ça avait quand même tenu 12 ans de ma vie et ça m'avait beaucoup plu. Mais cette fois-ci dans la santé, et je me suis dit, allez, voilà, on y va. J'ai envie de faire quelque chose qui rassemble plein de sujets qui me concernent, et en particulier la santé des femmes, et c'est comme ça qu'est née Maya's Life.
Et ce rapport justement à la santé des femmes, tu l'as eu très jeune ou...
Alors c'est un long sujet, je peux parler de mon engagement et... je pense que je l'avais dit dans un... J'ai une famille où tout le monde est... C'est une famille matriarcale, c'est une famille qui est très engagée, très féministe. C'est un peu pick your subject. Donc, chacun a droit à son sujet. Et moi j'ai pris la santé des femmes. J'aurais pu en prendre un autre, mais on est tous très, très, très preneurs sur ce sujet-là. La santé des femmes, derrière, il y avait aussi une question d'autonomie. Je reste toujours épatatée de voir qu'au-delà des questions d'égalité, d'égalité de salaire, d'égalité de représentation, etc. On en revient toujours à la sphère du corps, au domestique et au corps de la femme, ce qu'elle a le droit ou pas de faire. Du coup, s'intéresser au corps des femmes et à la santé des femmes, pour moi, c'était aussi un sujet qui portait derrière la question du droit des femmes. Après, il y avait un autre enjeu dans la création de Maya's Life, c'est mon passage pour le service public, pour l'État. J'ai eu l'occasion de contribuer, de participer à la mise en œuvre de politiques publiques. Et chaque fois qu'on parlait politique santé des femmes, ce qui me frappait, alors je n'étais pas décisionnaire, loin de là, mais ce qui me frappait, c'était qu'on abordait toujours la question par le prisme de la santé mère-enfant, comme si on ramenait toujours la femme à sa fonction reproductive, quoi qu'il arrive. Et moi, au quotidien, les femmes que je rencontre, elles me parlent de tout, sauf éventuellement leurs problématiques maternelles. Donc le point, c'était de se dire, ok, mais qu'est-ce qui se passe quand on est ménopausée ? Qu'est-ce qui se passe quand on a une endométriose ? Qu'est-ce qui se passe quand on a un fibrome ? Et où est-ce qu'on en parle, en fait ? Donc c'est de là qu'est venue l'idée de dire, ok, allons plus loin et faisons quelque chose pour les femmes.
C'est vrai que ces sujets-là commencent à être médiatisés parce que aussi des personnalités publiques prennent la parole sur ces sujets-là, mais en entreprise, ça reste encore hyper tabou.
Ouais, ça reste tabou. Après, moi, je la trouve passionnante. Je regarde avec beaucoup d'attention la jeune génération. Alors, moi, j'ai 47 ans, donc évidemment, je ne m'inclus pas dedans. Mais moi, j'apprends beaucoup de choses avec elles sur ce qui leur semble complètement... inentendable et la manière qu'elle justement elle s'empare de ces thématiques là et de leur corps aussi en entreprise et du coup je pense que c'est aussi ça l'enjeu pour les entreprises aujourd'hui, c'est que cette jeune génération là elle pousse, mais dans le bon sens du terme, la nôtre, donc celle qui vient juste au-dessus. Et que du coup, si on veut pouvoir garder tout le monde et satisfaire et faire en sorte qu'on ait des collaborateurs intéressés et intéressants, il faut pouvoir aussi aborder ces thématiques-là. Et la deuxième chose, c'est que toujours chez cette jeune génération, c'est une génération qui regarde les thématiques, que ce soit des hommes ou des femmes. C'est quelque chose qui me frappe beaucoup dans le projet My Yes Life. J'ai toujours eu une facilité grande à pouvoir parler du sujet avec des jeunes hommes.
Oui.
Qui zéro shame, on aborde le sujet, on est tranquille. Donc évidemment, il y en a. Quand tu le ressens dans ta chair, c'est différent de quand tu le vois ou que tu en parles. Mais en tout cas, il y a plus de tabou sur cette thématique-là. Au contraire d'autres générations. Et c'est important parce que c'est la génération qui va continuer de travailler demain.
Va faire le monde dans lequel on va être, on va être demain.
Exactement.
C'est vrai qu'il y a pas mal aussi de médias sur les réseaux sociaux, des médias qui sont développés notamment, je pense, sur Instagram, par exemple, ou TikTok, qui parlent de ces sujets-là sans tabou et qui contribuent aussi au fait de démocratiser, entre guillemets, ces sujets.
C'est clair que c'est un méga mouvement. Après, la particularité d'Insta et de Facebook, c'est que ça donne à voir, ça donne à voir un message. C'est aussi pour ça qu'on a créé, nous, un réseau social interne à l'application. Il faut pouvoir aussi quand même protéger l'intimité des femmes et aussi donner à l'occasion à des femmes peut-être moins à l'aise avec la publicité qui peut être faite dans ces réseaux,
en fait.
De s'exprimer ou de partager des difficultés. En fait.
Oui, tout à fait. Là, je parle, en effet,
non, mais tout à fait. Mais je pense que les deux sont importants et les deux se tirent.
Tout à fait.
Les deux se tirent.
Tout à fait. Est-ce qu'il y a des rencontres dans ta vie pro, perso, qui ont fait que tu es la femme que tu es aujourd'hui avec moi dans ce studio ?
Plein.
Tu veux nous parler de certaines
personnes ? Ouais. Déjà pour moi, en fait, quand j'ai commencé le projet My Yes Life, j'ai été très très accompagnée par le docteur Thierry Troussier, et il se trouve que le docteur Thierry Troussier c'est aussi quelqu'un qui est très investi dans la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains, donc ça c'était bien. Par le docteur Troussier, j'ai rencontré des médecins fantastiques. Je pense par exemple à la docteure Danielle Choucroun, qui est une femme formidable. Donc voilà, tout un lot de médecins qui m'ont beaucoup appris. C'est souvent des médecins pour le cas de Danielle, c'est aussi une médecin qui est gynéco et sexologue, qui travaille au planning familial. Donc il y a plein de choses comme ça à rencontrer qui étaient top. J'ai un méga coup de cœur. on se cite mutuellement souvent pour Yasmine Kando, qui est la présidente d'Endo France. Qui est une des actrices qui a fait que l'endométriose aujourd'hui, on en parle, qui a une stratégie endométriose, c'est des gens investis. Donc ça c'est vraiment toute la partie My Yes Life. Avant My Yes Life, que te dire, j'étais chez Médecins Sans Frontières. C'est difficile de pas juste être amoureux de tout le monde en fait chez Médecins Sans Frontières. C'est des gens qui te constituent, c'est des gens qui sont qui ont un vrai effort. Donc ça c'est vraiment pour la partie, on va dire, de cœur qui est la mienne. Sur la partie peut-être plus business et développement. J'ai toujours eu dans mon entourage en fait des entrepreneurs qui m'ont poussé en fait à continuer, qui régulièrement me soutiennent, me disent allez, c'est bon, ça va le faire, c'est difficile là, mais continuer. Tout l'environnement Station F pour ça a été très 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 confortable.
S'inspirer, respirer.
Voilà, on sait que dans une vie d'entrepreneur, ça va à 300 à l'heure. Alors, tu es un co-founder, mais j'imagine que les charges sont quand même longues et lourdes, et les journées sont longues. En tant qu'entrepreneur, comment tu fais, toi, pour trouver ce moment de respiration, ce moment où tu vas retrouver de l'inspiration ?
Alors, j'ai longtemps cru, parce que c'est ce que tout le monde dit, qu'il fallait que je me repose.
Du coup, tu ne dors pas ?
Alors non, mais tu sais, le principe de genre, je ferme tout, je ne fais plus rien, et je m'enferme dans une grotte.
C'est quand même compliqué.
C'est compliqué, et en vrai, je pense que ce n'est pas du tout les moments qui me rechargent le plus. Ce qui me recharge le plus, vraiment, vraiment, et je pense qu'en ce moment, la Vivatex, je ne pensais pas que ça me ferait ça, mais ça me fait vraiment ça me booste en fait. Hein. C'est de pouvoir parler avec des gens, d'entendre leurs problématiques, de voir comment nous, potentiellement, on peut y répondre. Alors, ça peut être via Femtech France, ça peut être via My Yes Life, mais j'ai vraiment l'impression d'être utile, en fait. Et c'est ça qui me recharge, en fait. C'est ça qui fait que voilà, quand je reviens le lendemain, je me dis, ah, c'est super, en fait, ce que tu fais, ça ne sert pas à rien. C'est vraiment là, c'est utile. Il y a des entreprises qui sont contentes. Enfin, je pense à une intervention que j'ai faite en entreprise et où j'ai vu arriver la DRH, une employée, une représentante du personnel, et les trois personnes sont venues me voir pour me féliciter, me dire qu'en effet, ça avait complètement changé la perspective dans laquelle elles envisageaient les difficultés qu'elles avaient eues ou qu'elles auraient à venir. Et que voilà, ben c'est ça, il fallait continuer, et que c'était vraiment d'utilité publique. Ben, en fait, je suis sortie de là, j'aurais pu en enquiller 15 des conférences. J'étais contente. Quoi.
Le contact qui redonne de l'énergie.
Exactement.
Et l'inspiration ?
Je lis beaucoup. Je lis énormément. Ça peut. Alors, en ce moment, je suis plongée dans. J'aime beaucoup les autrices qui ont une capacité à montrer la femme. Pas uniquement comme une grande combattante, à montrer le grand et le petit de la femme, parce qu'on est juste un être humain comme un autre, en fait. Et en ce moment, par exemple, je lis une autrice qui parlera sûrement à beaucoup d'entre vous, qui s'appelle Déborah Lévy, et qui a écrit une autobiographie vivante et qui parle beaucoup du rôle de la femme, mais dans le quotidien. C'est ce genre de lecture qui m'aide aussi, moi, à me régénérer. Et puis les podcasts, bien sûr. Les podcasts, et en ce moment, je peux pas vous dire de pas écouter le podcast sur France Inter de Simone Veil, parce que voilà, c'est. Pas Simone Veil, pardon, Simone de Beauvoir. Simone Veil, c'est bien aussi, mais Simone de Beauvoir, parce que du coup, elle est pleine de d'échecs, d'erreurs, et aussi pleine d'une pensée qui nous a tous construits. C'est enrichissant. C'est enrichissant, je pense, d'avoir comme modèle et d'inspiration, quand tu es une femme toi-même, des femmes qui ont aussi fait plein d'erreurs. Parce que ça te donne le droit
d'en faire.
Et ça enlève énormément de pression. Parce que mine de rien, c'est top de mettre les femmes en avant. Et vraiment, je suis la première à l'encourager pour qu'il y ait une certaine forme de rééquilibre. Mais ça met aussi beaucoup de pression sur les femmes qui sont mises en avant. Et du coup, de pouvoir voir qu'on a aussi le droit de faire plein d'erreurs, c'est aussi très confortable.
Oui, et puis il faut le dire, parce que du coup, ça encourage les autres à se dire, bah, en fait, je peux quand même le faire.
Exactement.
Même si à un moment, j'ai fait une erreur, ou je vais peut-être me planter, mais
exactement.
Faut oser. Est-ce que... Non, j'irai après là-dessus. Je te propose, attention, de changer de rôle
là.
Pour les prochaines minutes qui viennent. Alors, si tu étais, Juliette, présidente de la République, quelle serait la première mesure que tu prendrais ?
Alors, c'était une question que tu m'as demandé de préparer.
Oui.
Évidemment, j'aurais dû dire le droit des femmes, l'égalité femmes-hommes, pardon. Mais en fait, je ne peux pas m'empêcher de penser plus à toutes les questions d'écologie et de climat.
Ouais.
Je lis un livre que je vous recommande à tous, qui s'appelle « Ministry for the Future ». Qui est parti en 2020 et qui fait toute une série de propositions sur un monde apocalyptique, mais qui sera peut-être le nôtre dans quelques temps. Donc je pense que s'il y avait toute une série de mesures à mettre en place, c'est peut-être des mesures un pouillème plus contraignantes que celles qu'on a aujourd'hui autour de l'écologie.
Et il y en aurait une que tu pousserais en particulier ?
Non, je ne suis pas assez sachante sur le sujet pour le coup.
Wow. Et aussi, je t'avais demandé,
j'ai fait mes devoirs,
de préparer un événement, quelque chose qui est une de tes plus grosses claques.
Ouais. Alors c'est une claque c'est une claque qui en même temps était un grand moment de plaisir et en même temps, enfin un grand moment de satisfaction et en même temps une immense tristesse. Donc ça fait 3 ans que je bosse sur My Yes Life. Et My Yes Life, en fait, c'est venu aussi beaucoup, 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 beaucoup de mes échanges avec ma mère. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman, déjà une maman médecin, et une maman très, 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 très engagée sur le droit des femmes et qui, pour le coup, a été très à l'aise sur toutes les questions de santé des femmes.
Elle avait une spécialité en particulier ?
Elle était anesthésiste réanimateur, donc rien à voir avec le schmilblick.
Elle réanimait aussi bien les hommes que les femmes.
Exactement, ça par contre, ça, oui, elle l'a toujours fait, ça c'est clair. En revanche, voilà, elle a le My Yes Life, dès le début, ça a été la première personne avec qui j'en ai parlé, ça a été la première personne avec qui J'ai testé l'idée parce que malgré tout, elle avait été aussi à une autre époque de sa vie interne, travailler en tout cas dans le secteur gynéco et maternité. Et donc voilà, j'ai beaucoup testé tout ce que je voulais faire avec elle. Elle a porté le projet avec ses copines de 70 à 90 ans. J'ai beaucoup discuté sur de l'intergénérationnel aussi. Comment elles avaient traversé. C'était quand même, ma mère, c'est la génération de la libération sexuelle. Donc c'est aussi, c'est la génération de la pilule, c'est la génération du droit à l'avortement. Donc c'est aussi des grands moments de féminisme. Et de droit en santé des femmes. Donc voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup, beaucoup discuté le projet, qui était ma plus fidèle supportrice. Elle est partie avant que ça se termine. Voilà. C'était ça ma grosse claque.
Qui peut être aussi un coup de cœur, du coup.
Voilà, tout à fait.
Et elle t'a parlé de l'époque où elle a eu à parler de ces sujets avec sa maman.
Bah, en fait, c'était un des grands... Enfin, on est deux filles, j'ai ma sœur et moi, et c'était un des grands sujets de ma mère. Elle avait trouvé ça tellement dur que sa mère ne n'en parle pas et ne l'évoque pas du tout, ces thématiques-là, avec elle. Et puis, par ailleurs, elle-même étant médecin et ayant une certaine connaissance, elle a vraiment pris le reverse effect derrière. Je ne peux pas m'empêcher de raconter une anecdote rigolote parce que ma mère était vraiment très à l'aise en fait avec l'échange sur ce sujet-là. Et c'est une anecdote coup de cœur, mais je la trouve mignonne. Mon fils aîné est un compétiteur en sport. Et il était très jeune, il avait 14-15 ans. Et une des premières compétitions auxquelles il assistait, ma mère l'a accompagné. Et il était super stress. Et il dit à ma mère, parle-moi pour que le stress m'enlève. Et là, ma mère lui dit, très bien, mon chéri, nous allons te parler de donc, sexualité. Est-ce que tu veux que je t'explique un certain nombre de choses? Donc, sachant qu'à l'époque, elle avait quand même 66 ans. Et du coup, j'ai trouvé ça génial. Alors, du coup, quand j'ai demandé à mon fils, je lui ai dit, alors ça a marché? Il fait, ah bah oui, j'ai oublié tout de suite le stress. Voilà, ma mère, c'était ce genre de personne-là. Et voilà, tu vois, comme ça, je t'ai partagé mon coup de cœur aussi.
C'était ta carte blanche?
Si tu veux.
Non, mais on peut en faire une autre de carte blanche.
Je peux faire une autre carte blanche. Mais ben, celle-là, je te la donne.
Merci pour cette jolie anecdote.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Je te laisse le micro pour ton coup de gueule, coup de cœur.
Alors, pour le coup, je vais reprendre ma casquette de présidente de Femtech France. Moi, je trouve ça formidable qu'en 2023, on ait découvert les femmes, la santé des femmes, la Femtech. C'est pas vraiment un coup de gueule, mais c'est juste une attention au fait que c'est un sujet sur lequel c'est bien qu'on s'en souvienne aussi l'an prochain et après. C'est un sujet qui naît, la santé des femmes, sur lequel il y a encore énormément de choses à faire. C'est un sujet sur lequel il y a des retours en arrière qui sont tellement faciles à faire.
On le voit,
dans certains pays qui pourtant sont aussi les pays dans lesquels la Femtech se développe le plus.
Oui. On
est dans un monde où les choses avancent très vite, et c'est formidable, et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on avance aussi vite sur les questions d'innovation en santé des femmes. Mais c'est aussi un monde sur lequel il faut protéger ses acquis, y compris en termes d'acquisition d'innovation et de mise à disposition de nouveaux outils. Voilà, mon coup de cœur et mon coup de gueule, ce serait à la fois les deux, c'est de vous dire rejoignez-nous, supportez-nous en Femtech, et surtout faites en sorte qu'on ne soit pas le sujet à la mode de 2023, mais bien un sujet qui dure, parce que pour le coup, les 50% de la population, elles sont là pour durer, quoi.
Et puis peut-être qu'on institutionnalise ce village Femtech.
Ce serait génial.
Au sein de Vivatech. On fait passer le message dans le studio. Si tu avais 2 heures par jour en plus, tu ferais quoi?
Je créerais une troisième boîte. Non, je rigole. Si j'avais 2 heures par jour, je pense que je les consacrerais plus à l'enseignement. Voilà.
Pour transmettre?
Pour transmettre, ouais.
Et si tu avais un autre projet de boîte, tu irais vers quoi?
Je referai une boîte en santé des femmes. Et comme là, on est sur du digital, je pense que j'irai probablement soit sur de la biotech, soit sur du device. Sachant qu'en biotech, je pense qu'il y a encore plein de choses très inexplorées. En particulier en recherche fondamentale, aujourd'hui, il y a très, très peu de projets autour du sang des règles. Et derrière, en tout cas, les quelques-uns qui sont là commencent à évoquer un vrai potentiel en termes de déjà de compréhension et voire peut-être de compréhension de pathologie et d'anticipation et de prévention sur certaines pathologies. Donc je pense que j'essaierai de me lancer sur un projet plus scientifique peut-être encore que celui sur lequel on est actuellement et qui aille encore plus loin sur la connaissance du corps féminin.
On arrive à la fin de cette émission. Et si toi, tu avais dû choisir une femme entrepreneur à mettre en avant, tu aurais choisi qui et pourquoi ?
Alors déjà, je m'excuse pour toutes celles que je ne vais pas citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup que j'aurais voulu mettre en avant.
Oui, ma question est un peu dure.
Elle est très dure. J'ai choisi quelqu'un qui a une double casquette parce que je me suis dit, voilà, moi, je remplis un peu les cases. Donc j'ai choisi Clémence Lejeune, qui est cofondatrice de Sorella. Sorella, c'est une... c'est une entreprise physique, enfin, pardon, une clinique physique et digitale dédiée à la santé des femmes. C'est un super projet parce que c'est une prise en charge vraiment globale de la femme, y compris sur des questions cardio, y compris sur des questions de nutrition, psy. Voilà, donc on n'est pas que sur la sphère gynéco. Et Clémence est aussi une des fondatrices de Leia Capital, qui est un club de business angel femmes. Qui n'investissent que dans des entreprises soit portées par des femmes, soit à minima une cofondatrice femme, et qui aujourd'hui en plus a plusieurs batchs et sont super actives sur la place du financement des entreprises féminines. Donc voilà, je trouve ça formidable que Clémence ait eu voilà, à la fois l'énergie pour lancer ce club-là avec les succès qu'on a vus, et en même temps la capacité de monter quelque chose qui est un vrai projet global autour de la santé des femmes.
Merci pour ce coup de projecteur autour de Clémence Lejeune, du coup. Et merci à toi d'être venue aujourd'hui au studio nous parler de Femtech France, qui est tout jeune mais qui a une longue vie devant elle. Merci aussi d'être venue nous parler de My Yes Life. Et bonne route et à bientôt.
Merci beaucoup à toi.